Les yeux semblent indemnes, mais je ne sais pas s'il est aveugle ou non. Je ne sais même pas s'il est conscient, s'il entend, ou s'il comprend ce qu'il entend. Si vous comprenez ce que je dis, serrez-moi le doigt.
T'as dit ?
Ouais.
T'as vu ça ? Il se passe la même chose dans le film.
Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important.
C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça ?
C'est ça qui est important ? C'est vrai, remarque, 9h, c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horreur de les dormir.
Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers 10:30. Mais pourtant, moi, j'étais fatigué après.
J'y passerai des jours, des nuits, des mois, s'il le faut. Oh, tout de suite, bordel de merde. Oh, tu me retailles. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, proche de bien. Oh, ton cul, ton cul. C'est mon génie.
Pour sang, bon Dieu, tu
sais... Stan, ne dis plus ce genre de choses, s'il te plaît. N'invoque plus son nom à la légère, ça me dérange.
Qu'est-ce qu'il y a, Harry ?
Il y a que tu bâcles le travail.
Sans doute en fin de semaine. Dimanche, peut-être.
Dimanche, et on n'en parle plus.
On aurait eu des bandes de meilleure qualité si tu prêtais un peu plus d'attention à ton travail.
J'arrive pas à comprendre pourquoi quelques questions sur cette conversation te mettent en rogne.
Parce que notre travail, c'est pas de parler des problèmes qu'ont nos clients.
Hôtel Jack Tar. 3h. Chambre 773.
Harry, et si tu essayais pour une fois de me mettre au parfum ?
Leurs affaires ne me concernent pas plus qu'elles te concernent.
Et la curiosité, ça ne dit rien ? Putain, quoi ? C'est dans la nature humaine.
Écoute, la seule chose dont je suis certain au sujet de ce travail, c'est qu'on se contrefiche de la nature humaine et encore plus de la curiosité. Je ne suis pas payé pour être curieux, moi, mais pour mon travail, c'est ça. Et pour mon...
À plus tard.
Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin.
Salut les kids.
Nous sommes toujours dans les studios de Canal B pour la deuxième partie de notre émission consacrée à Francis Ford Coppola. En attendant la sortie de Mégalopolis que nous n'avons pas encore vue, mais je rappelle que deux ouvrages assez chouettes, voire quasiment géniaux, sont sortis cette année en 2024. Le premier, c'est bien sûr La Porte du Paradis de Sam Wesson, consacré notamment à l'aventure zootrope de Coppola, hein, qui va de ses débuts jusqu'à Coup de cœur, et puis c'est vraiment un ouvrage vraiment génial à lire, il faut absolument se jeter dessus.
Ça, et c'était puis... comme un roman. C'était déjà le... On en avait parlé parce que c'était l'auteur d'un bouquin sur Chinatown qui était déjà génial. Enfin, quelqu'un qui est un petit peu un Philippe Cardier américain, on va dire. En tout cas, quelqu'un qui parle de... qui a un travail de documentation exceptionnel, mais qui arrive à parler de ça de façon hyper romanesque. C'est absolument génial. Et même, je pense que si vous n'êtes pas fan de Coppola, ça se lit... Enfin, toutes les idées mises en place sont tellement fortes que ça se bouffe.
Alors, il a un autre livre qui avait été traduit, c'était sur le tournage de Breakfast at Tiffany's, dans le même genre, que je conseille évidemment. Et puis, on en a encore quelques-uns qui n'ont pas été traduits en France, notamment une biographie de Bob Fosse. Mais justement, Bob Fosse, par exemple, ce n'est pas un cinéaste forcément qui, nous deux, je pense, nous passionne particulièrement. Je pense que raconté par Sam Wesson, franchement, ça m'intéresse vraiment. Donc, il y a encore... deux, trois livres qui n'ont pas été traduits en français qui donnent très très envie. Et puis l'autre ouvrage, donc c'était celui de Marc Sille, Peut-être tu viens de me le dire juste avant qu'on enregistre. concernant vraiment le tournage et la production du Parrain. C'était sorti chez Capricci. Et comme le Parrain et comme la série The Offer, ce qu'on disait dans la première émission, que vous pouvez retrouver en podcast hein, sur le site de Canal B, bien évidemment, c'est aussi romanesque, voire plus romanesque encore que le film lui-même, tout ce tournage. Et ce livre, bah, c'est dommage, l'été est passé, c'était le bouquin parfait pour la plage, hein, parce que c'est un turnover.
C'est extraordinaire.
Voilà.
Ouais. Patch turner, on dit.
Patch turner, ouais. Ouais, turnover, c'est pas un avoir. Merci, Antonin, de me reprendre. Il faut savoir que pendant la première émission, on a ouvert du coup une bouteille de Coppola. Ce qu'on n'a pas évoqué, c'est que Coppola, comment est-ce qu'il fait aussi pour financer ses films ? Et ben, c'est qu'il s'est lancé dans le vignoble et on a eu le plaisir de commander une bouteille de Francis Coppola. Donc, c'est un Cabernet Sauvignon de 2020. Et ma foi, Coppola, non seulement il fait des bons films, mais il fait aussi du bon vin. Pour cette deuxième émission, on a évoqué dans la première notamment Le Parrain et puis ses débuts, et ça nous a pris un peu de temps parce que c'est génial, donc voilà, et, voilà. Je vous invite à réécouter cette première partie si ce n'est pas fait. J'avais envie quand même, et tu étais d'accord avec moi, de revenir sur les derniers films que Coppola nous a fait. On reviendra hein, sans doute évidemment, évidemment d'ailleurs, sur les années 80 et début des années 90, mais il ne faut pas oublier, donc Coppola, son dernier film, c'est 2004. Si je dis pas de conneries, Twixt, j'ai un doute. On en a parlé à l'émission quand c'est sorti, en tout cas, donc on existait. Mais voilà, il y a toute une trilogie dans les années 2000, en fait, fournie par Coppola, qui est un peu particulière, qui nous avait déçus à l'époque, évidemment. On a évoqué dans la première mission, encore une fois, la grandiosité en fait, de son cinéma, du Parrain jusqu'à Apocalypse Now, l'aspect à la fois spectaculaire, particulièrement précis, même parfois, en tout cas, généreux, efficace, tout en étant extrêmement personnel de son cinéma. Et dans les années 2000, Coppola, après 10 ans d'absence quasiment, puisque dans les années 90, il fait Jack et l'idéaliste pour ses derniers films de studio. Il attend voilà, de 97 jusqu'à 2010 presque pour refaire un film avec justement Laura Coppola. Et donc, il fait une petite trilogie qu'il considère lui-même comme des films d'étudiants, en fait. Et c'est vrai qu'on a affaire, donc il va tourner en numérique. Il va tourner avec son propre argent, si je dis pas ses autres, justement. Ouais,
c'est que de l'autoproduction.
C'est de l'autoproduction, oui. Même si.
Sur laquelle il perd son propre argent.
Voilà, parce que c'est des films qui ne sont pas populaires, enfin, qui n'ont pas un succès, en tout cas, populaire. Les critiques, évidemment, sont super curieux. Enfin, je me rappelle très bien à ce moment-là, c'est le retour de Coppola, en fait, avec en plus une liberté totale. Ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait, en fait, en créant Zotrope 40 ans avant, voilà, là, il l'a, avec ses petites caméras, en fait, il peut faire des films. Ce cinéma numérique dont il rêvait, c'est possible, en fait, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies. Donc, il n'y a pas de problème. Il peut raconter ce qu'il a envie de raconter. Et son premier film qu'il fait pour cette trilogie, c'est L'Homme sans âge. Et c'est vrai que moi, je me souviens très bien, à l'époque, je n'ai pas fini le film, en fait. Peut-être que j'étais trop jeune, c'est vrai, c'est possible. En le revoyant là aujourd'hui, alors c'est peut-être aussi parce que je le revois vraiment avec tout l'histoire Coppola derrière moi, après les livres, après avoir revu tous les films, et je me relance dans cette trilogie. Et L'Homme sans âge, bah, en le regardant, je trouvais ça merveilleux en fait. Merveilleux, mais il faut garder en effet en tête, c'est merveilleux, mais c'est pas le Parrain, hein. C'est ce que tu disais dans la première mission, c'est-à-dire qu'on est très très loin, il y a un fossé gigantesque, même entre Conversations secrètes, sans parler du coup d'Apocalypse Now ou du Parrain, qui sont des gros budgets, mais Conversations secrètes, qui est un film sur la solitude, un film techniquement qu'il pourrait refaire aujourd'hui en fait.
Ouais.
C'est techniquement possible pour lui de refaire un film de la valeur entre artistique ou
en tout cas dans la veine la plus expression personnelle telle que lui il se la définit de... c'est vrai que
c'est
entre
possible
entre comment on appelle ça Rain People les gens de la pluie et Conversation secrète enfin Rain People j'aime bien je trouve le film plutôt chouette
oui
mais par rapport à Conversation secrète c'est typiquement les faux petits films quoi c'est
voilà,
des films
ça.
Qui sont
bon, il a la palme d'or quand même à ce moment-là.
politique existentielle et tout, c'est incroyable.
Voilà, on dira jamais assez à quel point Conversation secrète est un film merveilleux. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que techniquement, c'est possible pour lui. Il ne s'agit pas de reprendre en fait les moyens d'Apocalypse Now pour faire un grand spectacle. Il peut en fait refaire un film comme Conversation secrète, voilà, et avec le pouvoir total. C'est ça aussi qu'il souhaitait. Et là, pour sa dernière trilogie, en fait, sur le temps. Alors, il fait quelque chose de très différent, mais il est parti sur quelque chose de beaucoup plus... Et je pense que Megalopolis restera dans cette veine-là. S'il doit ressembler à un de ses derniers films, je pense que ça sera à L'Homme sans âge. Justement, quasi expérimental à la fois en termes de montage, d'esthétique, des plans qui sont franchement merveilleux. Esthétiquement, c'est beau, c'est voire grandiose. Il y a des images qui sont vraiment très très belles dans L'Homme sans âge, en fait. Et en voyant la bande-annonce juste de Megalopolis, j'imagine qu'il y aura de très belles images. Ce qui pose problème plus, en effet, c'est peut-être cette grâce qui manque. Je vais pas dire investissement, ça serait un procès d'intention le concernant. On reparlera de Megalopolis, je vais pas me lancer là-dedans. Et L'Homme sans âge, je pense que c'est un projet qui lui tient aussi particulièrement à cœur, et il met plein de choses dedans, mais il manque quelque chose dans l'écriture, dans le romanesque, dans l'attachement au personnage. Ce qu'on peut retrouver aussi dans Tétro, évidemment, dans Twixt un petit peu, même si Twixt est plus évident. Je pense que c'est plus simple de rentrer dans Twixt si vous devez revoir les derniers films de Coppola. Twixt est sans doute le plus facile parce qu'il exploite en fait des figures connues, enfin des figures populaires, l'écrivain alcoolique sur le retour, et en effet on a affaire presque à du Stephen King en fait dans la construction narrative, donc on rentre dedans, et Coppola va y insuffler en fait tous ses problèmes personnels, y compris la mort de son fils. Il y va franchement, il y a même de l'autocitation, on pourrait être proche du Tarantino parfois, quoi, parce que Val Kilmer qui imite Marlon Brando dans Apocalypse Now, on n'est pas loin quand même de Tarantino qui fait sonner la musique de Pulp Fiction dans Boulevard de la Mort. Ouais. C'est vraiment le même genre de choses, sauf que bon, Apocalypse Now c'est autre chose que Boulevard. Bref, mais voilà, il y a quelque chose, il manque vraiment quelque chose dans cette dernière trilogie, comme dans ces films d'avant qui étaient plutôt des films de studio mainstream, Jack et l'idéaliste qui étaient ces films des années 90 où on sentait qu'il faisait le boulot. Et très bien d'ailleurs. Mais voilà, cette liberté dont il dispose dans cette dernière trilogie ne suffit pas à ramener en tout cas la grâce qu'il a pu avoir 20 ans avant. Ce qui est surprenant, enfin...
Ouais, c'est après, on peut que se perdre en conjecture sur ça, les raisons du pourquoi, du comment de ça. C'est vraiment très étrange. Hein. Moi, j'ai pas revu L'Homme sans âge qui m'a laissé un souvenir. J'étais très circonspect en le regardant.
Vraiment des belles choses, des très belles choses.
J'avais l'impression de regarder un truc, oui, effectivement, traversé de moments vraiment très très chouettes, mais dont j'ai plus aucun souvenir. Et Tétro, c'est un film que j'avais bien aimé, mais dans une pure perspective autoriste, parce que je l'avais vu. C'était vraiment, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un film. C'était un événement ce que s'était passé à Cannes et tout ça, et je l'avais vu, et en tant que fan de Coppola, on pouvait très bien définir en quoi c'était extrêmement personnel, parce que voilà, c'était une histoire de rivalité entre frères, c'était quelque chose sur lequel il y avait beaucoup
avec
à parler.
Avec la figure du papa par-dessus, enfin vraiment, mais dans tous ces films, hein, tu sens vraiment les infos.
Bien sûr.
La question du temps, évidemment, tout ça.
Mais c'est vrai que là t'as quand même ce truc où moi, je me rappelle, je l'avais aimé, en tout cas j'avais affecté de l'aimer à une époque, parce que voilà, c'était déjà cool de le voir, et je l'avais vu à Cannes et compagnie, j'avais eu l'occasion d'écrire dessus, et c'était intéressant de le mettre en rapport avec d'autres films par rapport à une sorte de constance thématique, quoi. La dernière fois que j'avais essayé de le revoir, évidemment j'étais pas tombé des nues, parce que c'était très, on va dire, un petit peu factice déjà mon rapport au film à l'époque, mais quand je le revois, c'est, je trouvais ça un peu chiant, quoi. Mais par contre, je sais pas pourquoi on en reparlera lors de Megalopolis, mais il y a quand même un truc qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'à partir du moment où Coppola, dans sa dernière partie de carrière, en fait, il fait quand même vachement référence à lui-même, quoi. Mais vraiment beaucoup, quoi. Et même si il peut affecter d'emprunter des chemins un petit peu libres d'une narration, en type de narration, en type d'univers un petit peu plus européen,
il évoque Edgar Poe, il évoque des références plus lointaines,
et puis il évoque un petit peu sa vie. Dans Twixt, il y a un petit peu ça. Et il y a un truc qui est constant, toujours chez Coppola, et ça depuis le début, c'est que tout est déjà arrivé, en fait, quoi. Et ça, déjà, dès Rain People, qui est en tout cas le film que j'ai en tête dans ses premiers films, c'est déjà arrivé. Enfin, voilà, elle s'est déjà cassée, le couple est déjà arrivé, il est déjà cassé, quoi. Le parrain, c'est déjà arrivé. Vito Corleone, c'est déjà... Il y a déjà tout un background historique, quoi. Même jusqu'à Dracula. Dracula, c'est déjà arrivé. L'histoire, elle est déjà arrivée. Il veut juste la revivre, quoi. Donc, il y a un truc... chez lui, Apocalypse Now, pareil. Enfin voilà, Kurtz a déjà fait le chemin.
On refait toujours.
Chez Coppola, c'est quand même une constante, mais toujours. Hein. Peggy Sue, c'est pareil. C'est déjà arrivé et on revisite quoi.
Et si c'est pas c'est le cas, c'est que ça va trop vite. Parce que tu vois, je pense à Jack, qui est vraiment un film de commande pure.
Je me suis jamais résolu à regarder Jack.
Donc c'est avec Robin Williams dans les années 90. C'est Robin Williams, c'est un enfant qui vieillit 4 fois plus vite que les autres. Donc quand il arrive en CM2, et ben il a la taille d'un bonhomme de 40 ans. Robin Williams. Voilà, tout va trop vite. Mais je pense que ça correspond. C'est-à-dire que si c'est pas déjà arrivé, ça va trop vite et on pourra pas tout vivre. C'est-à-dire que il y a l'un ou l'autre. Et dans L'homme sans âge, il y a un peu de ça aussi. C'est-à-dire que il a une mission, c'est pas déjà arrivé, mais il pourra pas aller au bout de toute façon, quoi. C'est-à-dire que il y a un empêchement dans tous les cas. Soit c'est déjà arrivé, soit on peut pas l'atteindre. Il peut faire des nuances, hein. Mais dans tous les cas, s'il y a un but, on pourra pas l'atteindre dans tous les cas. En fait.
Je pense que t'as toujours ce truc-là. Enfin, ça correspond. C'est encore un truc qui rentre en résonance avec ce que j'essayais de développer dans la première émission, en disant voilà, c'est ces gens qui essayent de franchir le seuil de l'écran, de devenir quelque chose d'autre, ou peut-être d'être forcé de devenir quelque chose d'autre, quoi. Mais des fois, je me dis, mais comment ça se fait ? Il y a ça dans tous ces films, vraiment. Il y a vraiment ce truc-là de gens qui essayent de correspondre à quelque chose, jusqu'à même des coups de force, hein, des coups de force de réalisme. Hein. Je sais que Peggy Sue, quand on en parlait dans l'émission, c'est hallucinant. Moi, j'aime beaucoup Peggy Sue. Mais il y a ce truc qui fonctionne dans Peggy Sue, à mon sens, c'est que, bah voilà, elle est là avec son corps de nana de 40 ans, Kathleen Turner, et elle est avec des gens qui ont 20 ans. Mais ça passe, parce que bah, y a tellement cet affect très fort de Coppola, de se dire, mais je projette un personnage là-dedans, que voilà, ça passe. Ceci dit, voilà, il y a un truc de jeune homme aussi chez Coppola. Et quand on devient vieil homme, c'est pas pareil. Quand on commence sa carrière en se disant, tout ça est déjà arrivé, il y a eu toute l'histoire avant moi, et maintenant je commence à faire des films, l'affect que je mets dans ce qui est arrivé avant moi est hyper fort, parce que je suis jeune, quoi.
James.
Tout ça n'existe pas, tout ça je ne l'ai pas connu. Mais quand t'as 80 balais, quand on a 70-60, c'est pas pareil. Tout ce qui est déjà arrivé, je suis susceptible de l'avoir déjà vécu. Donc je pense que cet état d'esprit, enfin, c'est là-dessus que je mettrais le changement fondamental qu'il peut y avoir chez Coppola, qui fait que ses films sont moins convaincants, même des films que je peux bien aimer, ils sont moins convaincants. C'est que c'est des films de quelqu'un qui est âgé et qui ne peut pas envisager ce qui s'est passé auparavant, ce qu'il faut revisiter, ce qu'il faut, avec quelle vigueur un jeune homme peut essayer de revivre, d'investir de façon fantasmatique ce qui s'est déjà passé. Il peut pas, parce que ce qui s'est déjà passé, toute l'énergie fantasmatique de ce qui s'est déjà passé, bah c'est ce qu'il a déjà vécu, en fait, quoi. Et c'est vrai que ce rapport qu'il peut y avoir dans Twixt, du rapport à ce qui s'est déjà arrivé et tout ça, bah c'est déjà le rapport d'un vieil homme, et je pense qu'il y a une sorte de truc qui fonctionne moins bien vu l'âge. Mais
je propose justement, on parle de Twixt, on va écouter justement un extrait de Twixt. On évoquait justement la pas la parodie, mais l'évocation de son propre cinéma dans Twixt. Un monologue de Val Kilmer que je trouve merveilleux dans le film. Et encore une fois, je le dis, Twixt, même si on est loin des chefs-d'œuvre de Coppola des années 70, Twixt, à le revoir aujourd'hui, c'est-à-dire plus de 10 ans plus tard, J'ai pris beaucoup de plaisir en fait à regarder ce film qui est d'une efficacité narrative déjà assez efficace. Enfin, c'est redoutable.
Je dirais pas.
C'est-à-dire que je l'ai vu 2-3 fois du coup ce film-là en fait. Les premières fois, ça me passe un peu au-dessus du crâne. J'y vois uniquement du Coppola. Je sais que la dernière fois que je l'ai regardé, j'étais juste embarqué par le film quoi. Et même si les audaces visuelles, on va dire, parce que c'est pas forcément des audaces, aujourd'hui justement, ça vieillit plutôt bien. Ça paraît presque même sobre, ce noir et blanc, ouais. Moucheté de rouge, de couleurs, ça paraît plutôt sobre par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui en fait. C'est un film qui vieillit plutôt bien et j'étais juste embarqué par une humeur, un récit et non ça fonctionnait vraiment très très bien comparé à Tétro qui lui m'ennuie et j'ai beaucoup de mal, je m'y accroche. Parce que voilà, je vois les conflits copoliens, des choses de ce genre, et puis il y a Vincent Gallo, et je suis content de voir Vincent Gallo qui a disparu dans sa folie trumpiste, ou des choses de ce genre. Et là, à l'époque, même s'il est déjà fou, et au moins il a une présence qui est exceptionnelle à l'écran.
Ah, il est beau le salaud. Hein.
C'est dingue. Et voilà, bref, on écoute un petit extrait de Twixt, et on se retrouve après pour revenir encore en arrière.
The night was humid. The night was cloudy. Fog. A mist descends on the Lake Mini Unwanapanuki Lake. The fog floated out like Virginia's silent dream. No, that sucks. The fog on the lake. The fog on the... Oh! The fog on the lake, just to torture Sam, descend, floats out like tears. On a whale's ass? No.
The fog on the lake was like a straight edge razor.
The fog on the lake reminded me of my first wife. It dissipated with time.
I've lost my mind. And now I have a lisp. But now I'm suddenly turning into a black basketball player. She wore taffeta. I'm typing as a gay basketball player from the 60s. No, I like short shorts. They are revealing, but they're comfortable. It helps me jump.
There was no fog on the lake. Yeah.
C'est donc un extrait de Twixt, le dernier film en date avant Mégalopolis de Francis Ford Coppola avec un Val Kilmer qui était vraiment super, je conseille. Avant Twixt, c'est vrai qu'il faut revenir au début des années 90, on met de côté un peu le Parrain 3 qu'on a déjà évoqué, pour retrouver un grand Coppola et on a Dracula qui pour moi est une anomalie presque dans le cinéma américain, non pas même pas de la décennie 90, mais même de 20 ans entre 80 et 90, pour moi c'est un objet un peu à part et j'ai l'impression, mais comme on peut avoir pour Le Parrain ou Apocalypse Now, que Dracula, c'est bon, il fait partie aujourd'hui des classiques un petit peu. C'est-à-dire qu'on va évoquer le film de vampire et la figure de Dracula, bah évidemment il y a le film de Coppola, mais on va pas forcément refoutre le nez dedans. Et en refoutant le nez dedans, moi je me dis quand même qu'on a affaire à un objet assez, assez exceptionnel. Encore une fois, c'est-à-dire que le problème qu'on a aujourd'hui, nous, c'est de se dire que Coppola, c'est le type qui a fait Le Parrain et Apocalypse Now, et du coup, Dracula, il peut être un peu en dessous, soit, et peut-être, mais dans la production cinématographique du moment, pour moi, Dracula est un film hors norme, qui aujourd'hui, en fait, a une cohérence, a une espèce de peut-être pas de perfection au niveau du Parrain, c'est pas cette perfection-là dont je parle, mais de dans cette histoire de Dracula, il touche quand même à quelque chose d'assez nickel. C'est-à-dire que là, j'enlèverai pas de scène du film et j'en rajouterai pas non plus. Il me paraît tenir et être d'une cohérence et d'une efficacité assez redoutable. Et je retrouve justement les plaisirs, y compris de casting. Moi, j'étais surpris en le revoyant, par exemple, moi qui ne supporte pas Winona Ryder. Je sais que je suis... Il y a plein de gens qui sont pas d'accord. Je ne supportais pas Winona Ryder. Et ben de le revoir là, dernièrement, je me suis réconcilié avec elle juste parce qu'elle apparaît, elle était superbe. Mmh. Gary Oldman, je me fous assez royalement de cet acteur. Il est impeccable. Keanu Reeves, à la limite...
C'est terrible, quand même, Keanu Reeves.
Mais Anthony Hopkins, c'est pareil. Je me dis, en fait, il y a un... Encore une fois, je retrouve, en fait, j'ai repensé au casting du Parrain. Et je repensais, en fait, je pensais Coppola qui fait le casting de Dracula, sans savoir s'il avait eu les coups des franches, comme, ou s'il s'est battu, ou s'il lui avait imposé les acteurs. Voilà. Je ne sais pas très bien comment s'est passé le casting du Dracula. Mais malgré tout, il y a quelque chose, en fait, voilà, des figures qui s'imposent, des visages qui s'imposent aujourd'hui. Moi, quand je pense Dracula, du coup, je vais penser Keanu Reeves, je vais penser même Anthony Hopkins, c'est peut-être un peu moins, je trouve. Voilà. Mais en tout cas, le fait est qu'il y a un objet là, ouais, qui se...
Ce qui est sûr, c'est que c'est le dernier film, le grand film au sens, en tout cas, public de Coppola, ne serait-ce que parce que c'est son... Enfin, c'est son dernier grand succès.
C'est un très grand succès.
C'est aussi un film qui reste, enfin qui est quand même toujours vu, toujours montré, qui est un film qui peut ressortir en salle avec beaucoup de succès dans les rééditions et tout ça, qui a su conquérir le public goth. mais vraiment, c'est un truc qui rend un peu le corpus, et moi pour être un ancien rôliste et tout ça, bah voilà, le corpus film un petit peu de, pas médiéval fantastique, mais un petit peu toute cette dimension, un petit peu, il y a de la grosse bagarre, il y a un côté très figuratif, un côté très baroque dans la représentation d'un truc entre le sexe et l'horreur et tout, ça se pose là, quoi. Et c'était amusant, parce que moi je suis contemporain de ce film-là, enfin j'avais 12 ans quand c'est sorti, par contre je suis plutôt contemporain d'être 4 ans plus tard, d'être tombé amoureux de Coppola et puis de voir les rapports presse sur le Dracula. Et Dracula, de façon critique, il n'a pas été hyper bien accueilli, en tout cas par une critique plus moderniste, notamment les Cahiers du cinéma.
C'est
et
du
tout
cinéma
ça.
De genre en même temps.
Bah, c'est pas du cinéma de genre, vraiment pas, quoi. Enfin, Dracula, quoi. C'est vraiment
Qu'est-ce
un cinéma.
Qu'est-ce qu'on lui reprochait, tu te rappelles?
Ah oui, mais en fait, j'ai lu des articles de Danet, me semble-t-il, et puis de Torret qui reprenait des arguments de Danet, qui disait bah oui, c'est du cinéma, c'est un cinéma qui ne se réfère qu'au cinéma.
Du maniérisme.
Un maniérisme. Et évidemment, de toute façon, c'est dans le projet de Dracula.
Il se confronte à Murnau et puis aux représentations du vampire, en fait. Et...
Je pense que tu as un truc où toutes les coutures étant apparentes et toutes les images se désignant elles-mêmes comme des images à travers tout le film.
Le vampire parle de ça en général. C'est justement l'image, tu as le vampire qui
rend. Ouais, ouais, ouais.
Il y a un travail sur l'image. Il y a un truc le cinéma de vampire.
Dans mon rapport que j'ai avec le film, c'est un film que je n'aimais pas trop. J'adorais la musique est extraordinaire évidemment, et que j'ai pas aimé jusqu'à tard, et que j'ai redécouvert il y a une dizaine d'années, et je me dis putain, c'est incroyable, le film il n'a pas vieilli. Un film qui ne paraissait déjà, enfin à l'époque où les reproches disaient c'est vraiment vieillot, tous les effets spéciaux sont vieillots et tout ça, ça ne vieillit absolument pas. C'est un truc où évidemment toutes les coutures sont apparentes, mais ça rentre complètement dans le projet esthétique du film, qui est un truc très baroque visuellement, et qui ne cache absolument pas toutes les coutures de sa conception. On est vraiment dans un truc comme ça. Moi j'aime beaucoup le film. Je trouve vraiment, il y a une puissance romantique dans ce film que je trouve démente. Il y a une générosité formelle à laquelle j'adhère complètement, qui me rend le visionnage à chaque fois de ce film-là hyper, hyper sympathique, et qui m'émeut sur plein de côtés. Mais je trouve limité. sur plein de trucs, je me dis putain, à chaque fois ça devrait être Vertigo, ce film, ça devrait être Vertigo, ça devrait être et je pense que c'est une des références.
Oui, mais il manque le petit truc. Oui.
C'est-à-dire que voilà, on est affaire à quelqu'un qui est amoureux de quelqu'un, qui trouve son identique dans la rue, enfin à travers le portrait, un portrait, et qui essaye de revivre quelque chose. Évidemment, mais c'est une histoire qui est très belle.
Il est face à quelqu'un qui se reconnaît tout de suite dans cet amour, en fait, et qui ne remet pas ça en question. Et il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de la folie, il n'y a aucune folie remise en question, c'est-à-dire que l'amour est accepté comme tel.
L'amour est accepté comme tel, il va être impossible. On a plein de scènes très mélodramatiques qui sont très très belles à la toute
plus
fin.
Plus d'Ougzasseur voilà, que
Hitchcock. Il y a vraiment en tout cas une décision Dracula de se faire de sacrifier, hein, parce qu'il se dit bah voilà, cet amour-là avec Mina Harker,
il est
impossible, donc voilà, moi je me fais tuer, j'accepte de me faire tuer, quoi. Mais ceci dit, je pense qu'il y a un truc qui est inabouti là-dedans et que j'interprète encore suivant ma route que j'essaye de tirer le fil en me disant mais c'est, Dracula, le problème c'est que c'est peut-être que c'est un film du point de vue de Dracula. Et peut-être que si c'était si on comparait ça au Parrain, par exemple, où Mina Harker serait Michael et Dracula serait Vito Corleone, le Parrain, c'est un film du point de vue de Michael quand même, quoi. Vito reste une figure. Dracula, là, on est quand même avec lui.
Vito, ouais.
On commence avec lui, on commence avec... Et en fait, ça marche moins bien.
Ouais.
Ça marche moins bien d'être quelqu'un qui est comme lui, qui a déjà vécu, qui est amoureux d'une sorte d'image, plutôt que de cette image qui est un petit peu vierge dans tous les sens du terme,
ouais.
Et qui est amoureux d'une image et qui va essayer de passer l'écran, quoi. Il y a ça, il y a vraiment ce truc. Mais il y a quand même cette bascule-là. Où tu dis il y a vraiment un truc de vieux monsieur quelque part et qui peut se gagner en termes de maîtrise, parce que tu as des trucs qui sont fous dans Dracula, mais qui marchent moins bien, qui marchent en termes de trop-plein. Il y a un trop-plein visuel dans Dracula,
ouais, mais
qui
après,
est génial, mais voilà.
Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Juste avant, on va faire une dernière pause avant de rentrer dans un autre cœur. C'est ce que tu disais, c'est que à l'époque, Dracula, par exemple, peut être mal perçu par la critique, voire par les spectateurs. Moi, je me souviens aussi l'avoir vu, alors un peu plus tard que toi, peut-être, parce que je suis plus jeune. Je tiens à le rappeler. Mais j'ai le même sentiment en voyant justement ces derniers films, à savoir que il vieillissait bien, en fait. C'est-à-dire que je tiens pas à rentrer vraiment dans le principe du Coppola novateur et de l'intelligence artificielle pour la dernière bande-annonce de Megalopolis qui affirme que tous ces films ont été défoncés par la critique, même si on sait hein, quand même que tous ces films, que ce soit Le Parrain, Apocalypse Now ou Dracula, en effet, ont été un peu maltraités par la critique régulièrement. C'est sûr, il n'y a pas besoin de utiliser une intelligence artificielle pour ressortir des trucs dans le genre. Il n'empêche qu'aujourd'hui, en effet, c'est vrai, un film comme Dracula, Apocalypse Now, Le Parrain, machin.
Hop. Même, je sais qu'on parlait de ça dans l'émission sur Rusty James. Rusty James, c'est un film qui est très ancré dans son époque, les années 80,
et Peggy Sue,
dont on pouvait se dire, c'est un film qui va beaucoup vieillir parce qu'il est hyper marqué visuellement sur les tropes esthétiques de l'époque.
Mais
c'est un film qui ne vieillit pas.
Mais grosso modo, les films de Coppola, je ne sais pas s'ils vieillissent pas, mais en tout cas, avec 10, 20 ou 30 ans de recul, on se dit, mais ces films-là, en tout cas, ils vieillissent bien. S'ils ne vieillissent pas, en tout cas, ils vieillissent bien dans le pire des cas. Soit ils sont un marqueur de leur époque, comme peuvent l'être aussi des films de Michael Mann, par exemple, par leur esthétique, par ce qu'ils racontent. Rusty James comme Outsiders, ils marquent quelque chose. Soit ils sont un peu intemporels, tu vois, Jardin de Pierre, par exemple, a ce petit côté fordien qui le rend intemporel. Ça pourrait être un film début 80 comme fin 90, enfin, il y a quelque chose comme ça. Et ses derniers films, sa dernière trilogie, pareil, on aurait un peu de mal à la dater finalement, quoi, parce qu'elle est suffisamment expérimentale et en même temps suffisamment classique, parce qu'il est vraiment entre les deux, pour que ça puisse s'adapter en fait à différentes époques et qu'on a du mal à dater le cinéma de Coppola. Je propose, après cette proposition théorique, ma foi, très pertinente, de faire une courte pause avec notamment justement ce qui est important, je pense de le rappeler, la musique de Nino Rota du Parrain. Et j'invite aussi les gens qui seraient un petit peu curieux de se relancer dans Coppola, qui ont un peu peur, de voir le blow-up. C'est un truc tout con, hein, mais sur Arte TV, le blow-up qui dure 10 minutes, Coppola en 10 minutes. Et un truc tout con, j'ai revu ça, et en fait, on remontre quelques images totalement iconique de l'histoire du cinéma, des musiques aussi, et réentendre la musique du Parrain, par exemple, c'est se rappeler que Coppola, c'est quand même le type qui a fait ça, en effet, pas que, hein, mais et voilà, ça relance, ça ramène à la mémoire vive des images de l'histoire du cinéma. Tu dis, elles sont toutes associées à Coppola. Mmh. C'est assez exceptionnel. On écoute un petit montage avec des extraits justement de Coppola qui parle, et puis cette musique du Parrain de Nino Rota, et on se retrouve après pour terminer cette émission.
And I'm feeling like a idiot having set in motion stuff that doesn't make any sense, that doesn't match. And yet I'm doing it, and the reason I'm doing it is out of desperation, because I have no rational way to do it. What I have to admit is that I don't know what I'm doing.
Well, how do you account for the discrepancy between what you feel about it and what everybody else who sees it?
Because they see the magic of what has happened before. I'm saying, hey, it's not going to happen. I don't have any performances. The script doesn't make sense. I have no ending. I'm like a voice crying out, saying, please, it's not working. Somebody get me off this. And nobody listens to me. Everyone says, yes, well, Francis works best in a crisis. I'm saying, this is one crisis I'm not going to pull myself out of. I'm making a bad movie, so why should I go ahead? I'm going to be bankrupt anyway. Why can't I just have the courage to say it's no good?
There's almost anything I do to get out of it. I'm already thinking about what kind of sickness I can get. In the rain on the platform, thinking if I just moved a little, I'd just fall 30 feet. It might kill me, but it might paralyze me or something. And then it would be a graceful way out.
J'avais 5-6 ans, ma mère disait, écoute-moi, il ne faut pas que tu approches les gens de trop près. Sinon, tu risques d'attraper leurs rêves. Je n'ai compris que des années plus tard. C'était en hiver. La crève, elle disait, c'était la crève que je risquais d'attraper. Tu veux que je te dise, Tucker? Je fais affaire avec toi pour une seule raison, faire du fric. Et c'est tout.
Thank you.
nothing is so terrible as a pretentious movie. I mean, a movie that aspires for something really terrific and doesn't pull it off is shit, it's scum. And everyone will walk on it as such. And that's why poor filmmakers, in a way, that's their greatest horror, is to be pretentious. So here you are, on one hand, trying to aspire to really do something. On the other hand, you're not allowed to be pretentious. And finally you say, fuck it. I don't care if I'm pretentious or not pretentious, or if I've done it or I haven't done it. All I know is that I am going to see this movie. And that for me, it has to have some answers. And by answers, I don't mean just a punchline. Answers on about 47 different levels. And it's very hard to talk about these things without being very corny. You use a word like self-purgation or epiphany, they think you're either a religious weirdo or an asshole college professor. But those are the words for the process, this transmutation, this renaissance, this rebirth, which is the basis of all life. The one rule that all man, from the time they first were walking around looking up at the sun scratching around for food and an animal to kill, the first concept that I feel got into their head was the idea of life and death. That the sun went down and the sun went up. That the animal, the crop, when they learned how to make a crop, it died. In the winter, everything died. And to the first man, he must have thought, oh my God, it's the end of the world. And then all of a sudden, there was spring and everything came alive and it was better. I mean, after all, look at Vietnam. Look at my movie, you'll see what I'm talking.
À l'instant, on a pu entendre cette extraordinaire musique de Nino Rota pour Le Parrain, et puis des extraits de Coppola, Kikos, extrait du documentaire Heart of Darkness de sa femme, Eleonore, qui est décédée malheureusement quelques jours avant sa présentation à Cannes, hein, si je ne dis pas de bêtises.
De Mégalopolis, ouais.
De Mégalopolis, ouais. Exactement. Qui avait réalisé un documentaire, l'un des plus grands documentaires, avec peut-être le documentaire sur le tournage de Fitzcarraldo, de Herzog, qu'à avoir justement lui aussi, hein, avec Apocalypse Snow, dans cette folie de cinéma, et puis dedans un extrait de Tucker, ce film de la fin des années 80 où Coppola évoque justement quelque chose d'à la fois très personnel, puisque son père avait mis de l'argent dans l'entreprise Tucker, cet inventeur tout seul dans son garage qui voulait faire une super voiture et puis justement en faire une commercialisation au niveau industriel, et puis les différentes industries d'automobiles l'ont empêché de faire ça. Évidemment, on voit très rapidement avec ce film-là le rapport avec Coppola et son rapport au cinéma, et il en fait fin 80 donc ce film avec Jeff Bridges tous les critiques, en tout cas, et même le public, je pense, ont bien compris qu'on avait affaire à un autoportrait. Hein, cet inventeur génial, même s'il ne sait pas exactement comment construire la chose, il a une vision des choses. Il veut la faire à un niveau industriel et pas uniquement dans son petit coin pour quelques gens. Parce que pour que ce soit rentable, il faut que ce soit à un grand niveau. Et on veut lui mettre des bâtons dans les roues, en fait, alors que tout le monde sait très bien que c'est vraiment un super produit qu'il est en train de faire.
Bah oui, Tucker, c'est un film fascinant. C'est un film qui est peu vu, hein, de Coppola. Je pense que déjà, il n'est pas hyper disponible en vidéo. Bon, évidemment, il ressort pas en salle. Il passe très peu à la télé. En tout cas, c'est un film qui, à l'époque, évidemment, vu que Coppola avait un petit peu ce qu'il avait encore au moment de sa sortie dans les années 80, et il avait vraiment une sorte de figure publique hyper importante. Bah, quand Tucker est sorti, on a beaucoup parlé de ce rapport autobiographique.
Faut redire, pardon, que Coppola, dans les années 80, c'est la décennie où il fait le plus de films. Il enchaîne film sur film dans les années 80, quand même.
Oui, hein. Bien sûr. Parce qu'il
est très présent. Hein,
il est hyper présent parce que, évidemment, il enchaîne cet énorme échec public et industriel qui est Coup de cœur à son échelle avec Outsiders et Rusty James. Et c'est vraiment les deux années suivantes où il sort les deux films quasiment coup sur coup. Donc
voilà,
il est vraiment.
Il fait Jardin de Pierre, Peggy Sue. Tucker.
Complètement.
Enfin voilà, il enchaîne les années 80, il est présent.
Mais Tucker, c'est vraiment un film qui est très étrange parce que Tucker, on pourrait pas dire que c'est un mauvais film. C'est même un film qu'on peut recommander à son meilleur ami sans problème en disant tu peux regarder ça. C'est vraiment c'est un spectacle vraiment là pour le coup d'une efficacité redoutable parce que c'est assez classique dans ce truc de rise and fall auquel nous habitue le cinéma américain, le mec qui a une idée. idées géniales et puis il va y arriver.
Et puis l'individualisme, on mêle vraiment le projet du cinéma américain.
Complètement.
L'individu qui veut montrer.
Presque le truc un petit peu à la Ayn Rand, complètement. Voilà, l'ingénieur génial contre l'industrie. T'as vraiment ce truc un petit peu libertarien, mais qui en tout cas correspond à beaucoup, beaucoup d'accointances avec le propre trajet de Coppola, qui a bâti sa carrière sur cette sorte de dualité, ou de non pas de paradoxe, mais une dualité où je promeux vraiment l'expression personnelle dans ce qu'elle a de plus spécifique, mais à un point industriel où il faut absolument donner les moyens vertigineux pour que cette expression personnelle
qu'elle soit efficace, en fait. C'est-à-dire que pour que mon expression ait un intérêt, il faut que tout le monde puisse en profiter.
Complètement. Et en fait, à travers le trajet réel de ce constructeur automobile qui s'est heurté aux quatre grands, me semble-t-il, donc Ford et puis à d'autres dont j'ai oublié.
Donc le père de Coppola lui-même a souffert de ça.
Donc il y a un truc autobiographique, il y a des doubles trucs autobiographiques et tout ça là-dedans. Mais après, évidemment, il y a surtout ce truc industriel. On se borne, un inventeur, un ingénieur. Il y a beaucoup d'échos d'ailleurs avec un des meilleurs films de l'année actuellement, à l'heure où on enregistre, qui est Ferrari de Michael Mann, que j'avais trouvé très copolien. Pas uniquement parce que ça parlait de voiture, mais pour des tas de raisons d'hérédité d'affect qu'on met dans la création, dans le travail et tout ça. C'est vraiment très, très étonnant que Michael Mann fasse un film aussi copolien à un âge aussi avancé. Mais Tucker a ce truc-là. Et c'est pourtant pas un film génial. C'est pourtant pas un film. C'est un peu comme si Terry Gilliam avait vraiment pu faire Don Quichotte à l'époque où il voulait vraiment faire Don Quichotte. Ou comme si Kubrick avait pu faire son Napoléon, ou comme ça, en fait, c'est un projet en or, parce que tu te dis c'est vraiment ta vie, et au final ça reste juste un honnête spectacle. Et pareil, je me demande toujours, mais comment ça se fait que c'est pas aussi bon que ça devrait l'être, ce film là je me dis c'est peut-être parce que Tucker, il est peut-être montré de façon trop unilatérale. C'est comme s'il ne montrait que Vito Corleone, s'il ne montrait pas Michael à côté. C'est d'ailleurs étonnant, parce qu'en fait, ce film-là est dédié à son fils. Hein, on ne l'a pas dit, mais c'est vraiment un truc qui est assez primordial.
On avait parlé à l'époque on avait parlé de Jardin de Pierre, puisque en effet, au moment où il tourne Jardin de Pierre dans les années 80, c'est 84 ou 85, pendant qu'il prépare Jardin de Pierre avec son fils, Joe, qui l'aide, qui est son assistant depuis des années déjà, en fait. Et pendant la préparation du tournage, Joe meurt dans un accident de hors-bord, alors même que Jardin de Pierre évoque justement un bonhomme qui passe son temps à enterrer des soldats. Et puis voilà.
Et son fils. Et son fils. Propre fils, quoi. Donc c'est vraiment un truc. Ça participe aussi à la figure Coppola avec lequel on avait commencé cette double émission.
Même pas
en disant,
évoqué Sophia.
Mais le côté aussi, l'intrication hyper forte entre la création et le domaine personnel, mais ça en vient au point de rupture totale, où le type fait un film sur le deuil d'un père pour son fils, et que pendant la préparation du film, il perd son fils. Donc tu te dis, là, c'est pas possible, là, Dieu existe, quoi. Dieu,
c'est
il existe, et puis il est mauvais, quoi. Donc t'as ce truc-là. Et donc Tucker, qui est dédié à son fils, à Gio, qui aimait les voitures. Le personnage du fils est présent dans Tucker, et c'est Christian Slater qui le joue, mais il a vraiment un rôle très très subalterne.
Qui est fasciné par son papa.
Qui est fasciné par son papa, mais à la limite, encore une fois, je reviens un petit peu sur ma marotte et tout ça, je me dis, mais peut-être que le film aurait été plus intéressant si il avait été vraiment du point de vue du fils. Et de même, le projet de Tucker, tel que le rêvait Coppola à la base, c'est un film qui est produit par George Lucas, il le voulait en termes de comédie musicale. Et clairement, ça se ressent pendant tout le film. Le film, il est d'une maestria visuelle exceptionnelle en termes de mise en scène.
Graphique aussi.
C'est pour ça que le spectacle est incroyable. On peut conseiller ça à son meilleur ami sans problème. Le film se suit tout seul. Mais c'est un film qui laisse assez peu de souvenirs. Moi, à chaque fois que je le revois, je le redécouvre parce que je l'ai oublié au fur et à mesure. Ça ne laisse aucune empreinte. Mais ceci dit, voilà, il a cette efficacité de mise en scène qui est vraiment typiquement celle des grands spectacles hyper chorégraphiés qui vient de son héritage de sa première forme qui serait celle de la comédie musicale. Mais on reste trop dans le domaine du rêve de Tucker sans avoir une altérité d'un regard extérieur, sans que le personnage de Jeff Bridges soit tiraillé d'une quelconque façon, et ce qui fait que le film en fait ne prend pas.
Mais alors, on va pouvoir terminer là-dessus d'ailleurs, parce qu'il nous reste assez peu de temps. La dualité d'ailleurs entre ce que tu viens de dire et deux films qu'on a assez peu évoqués, que sont Coup de cœur et Apocalypse Now. Coup de cœur pour moi montre cette altérité en fait, même si les points de vue sont constamment dispersés. Je sais que Coup de cœur, hein, je vais me faire des ennemis, hein, mais Coup de cœur pour moi est un échec, dans le sens où je n'arrive pas à m'intéresser à ce qui se passe au personnage et que je suis uniquement intéressé en fait par la technique du film qui est fascinante, et j'invite encore les auditeurs à retourner vers le livre de Sam Wesson pour voir comment un peu s'est passée la chose, alors même qu'à juste avant Coup de cœur, il fait Apocalypse Now. On pourrait reprocher la même chose, pas sur la construction, puisque là justement on a affaire à, on n'est pas du point de vue de Kurtz, mais ouais, du point de vue justement de Willard qui va poursuivre Kurt, justement la figure, voilà, et ça fonctionne très bien. Mais dans Coup de cœur, on pourra avoir ça aussi, justement, en fait. Les figures un petit peu exceptionnelles sont
Natasha Kinski
et Raoul Julia, en fait. Malgré ça, en fait, ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas à...
Non, ça prend pas, parce que je pense que le projet global de Coup de cœur, qui est pareil, qui est un film qui est fascinant, presque pour les étudiants en cinéma, c'est fascinant parce que c'est vraiment la pierre de Rosette du cinéma numérique, c'est que tu te dis, mais toutes la grammaire que Coppola cherche là-dedans, c'est la grammaire qui va être celle du cinéma numérique en termes de montage dans l'image et tout ça. Tout ça avec les moyens qui sont les moyens du cinéma analogique et donc, on va dire, enfin, de pellicule, quoi, de l'époque. Mais en tout cas, il recherche quelque chose qui va devenir le cinéma de demain. Ça, c'est clair que techniquement, en plus d'être un film qui est d'une beauté plastique,
c'est super,
à couper le souffle, oui, là, vraiment, c'est très très beau, mais c'est quand même super chiant. C'est vraiment un truc en plus qui est le contrepoint total, parce que là on retrouve justement cette dualité entre un personnage qui regarde et un personnage qui veut rentrer dans l'image, un personnage qui regarde et qui veut rentrer dans l'image, et une sorte de d'image rêvée auquel on veut correspondre, avec lequel on veut rentrer en contact.
T'évoquais Vertigo tout à l'heure, c'est pas Vertigo, ça veut pas remplacer, mais il y a ce côté, voilà, cette recherche d'un absolu, du fantasme en fait.
Mais tel que le dit Sam Wesson, tel que le raconte Sam Wesson dans son bouquin, c'est vraiment un livre, enfin un scénario, un projet qui a été fait aussi sur une question, peut-être, bon, ça serait aller un peu plus loin que Sam Wesson là-dessus, et c'est sûrement faux, mais de remords par rapport aussi aux limites, aux nombreuses limites qu'a franchi Coppola dans l'aventure Apocalypse Now, et notamment des aventures extra-conjugales, une sorte des amours qu'il avait, notamment pour la scénariste de E.T., Melissa Matheson, qui a triomphé l'année même de la sortie de Coup de cœur, ou à une année différente, mais en tout cas c'était son amante et tout ça, et qu'il a quitté au final pour rester avec Léonore et tout ça. Mais le film est quand même une ode totale au bonheur conjugal, en tout cas à la beauté de ce qu'il peut y avoir dans la conjugalité, malgré le fait qu'elle est ancrée dans une sorte de réel qui n'a rien à voir avec ce truc de fantasme dans lequel ces personnages vivent et qu'ils vont rencontrer à travers une nuit, que ce soit à travers de Natasha Kinski ou Raoul Julia, les personnages que vont rencontrer les deux membres du couple. Mais en fait, la différence qui se fait, c'est que chez Coppola, en fait, le désir se porte vachement sur Vito Corleone, le désir se porte sur Kurtz, le désir se porte sur Dracula. Mais en fait, au final, le projet du film, c'est quand même toujours de dire, non, en fait, je vais revenir je reviens quand même. Non, le vrai truc, c'est le réel.
C'est bourré de regrets. Enfin, tu vois, par exemple, le parrain, par exemple, on a beau finir le premier parrain ou le deuxième parrain, d'ailleurs, sur des solitudes, hein, énormément. Mais en effet, sur des regrets. C'est-à-dire qu'en effet, Michael, il aurait voulu retourner avec Diane Keaton, de retrouver quelque chose d'un peu plus pur, entre guillemets. Mm. Et c'est vrai que tous ces films-là, constamment, mais. Voilà, c'est le Coppola qui parle. On évoquait ça sur côté autobiographique. Le bonhomme, il peut pas s'empêcher en fait d'être investi un minimum. On n'a malheureusement plus beaucoup de temps, mais on reviendra sur Coppola très rapidement puisque le film Megalopolis depuis notre enregistrement sort dans quelques jours. On va pouvoir voir Megalopolis. On pourra revenir sur Megalopolis. Ce projet qu'il a depuis 40 ans quasiment, hein, qui est évoqué dans le livre de Sam Wesson aussi, en espérant aussi voir un jour un making-of qui a été tourné pendant le tournage de Megalopolis par Mike Figgis. Je suis très impatient de voir cet objet, même si je ne suis pas un fan de Mike Figgis, il a fait des belles choses, mais de voir un vrai réalisateur faire un making-of aussi sur le dernier, peut-être, film de Coppola, ou en tout cas l'œuvre qu'il rêve de faire depuis tellement longtemps. Donc voilà, on aura des choses à raconter, on va faire ça très rapidement. On se quittera, nous, avec un extrait de Jack. On n'a pas parlé d'Apocalypse Now particulièrement, mais on le fera peut-être dans la prochaine émission. On va plutôt partir sur Jack. Merci à vous en tout cas de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission comme la précédente en podcast, hein, sur le site de Canal B, évidemment. Et puis le lien, hein, vers le podcast sur tous les réseaux sociaux que le docteur utilise. Merci Antonin d'avoir participé à cette émission et d'avoir enfin, ça va te soulager d'avoir pu parler de Coppola. Et puis c'est pas fini, tu pourras dire ce que tu as oublié de dire dans la prochaine émission. On fera 3 heures sur Coppola, voire plus. Et donc on se quitte avec Jack. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt.
Des bisous.
Mon discours. Comme il ne me reste pas énormément de temps, il sera plutôt bref. Comme ma vie. Arrivé au terme de cette première période de notre vie, nous avons tous tendance à vouloir nous remémorer les choses agréables et à oublier les moins agréables. Et bien sûr, nous pensons à l'avenir. Avec une certaine inquiétude, on se dit, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais devenir d'ici 10 ans? J'ai envie de répondre. Regardez-moi. Je vous en prie, ne vous faites pas tant de soucis. Au bout du compte, aucun d'entre nous ne reste bien longtemps sur Terre. La vie est éphémère. S'il vous arrive d'être triste, regardez le ciel un beau soir d'été, lorsque la nuit de velours est parsemée d'étoiles. Et quand vous verrez une étoile filante déchirer l'obscurité, changeant la nuit en jour, faites un vœu et pensez à moi. Que votre vie soit spectaculaire. La mienne l'aura été. Tu vois, j'y suis arrivé, maman. Je suis une grande personne. Merci.